en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, En Coloc vous emmène remonter le temps jusqu'à la préhistoire avec l'IPH, Institut de Paléontologie Humaine, pour une conférence consacrée à l'homme de Yunxuan en Chine. En 1995, sur une berge de la rivière Han, deux crânes remarquablement conservés d'Homo erectus sont découverts, avec tout autour une industrie lithique baptisée culture de l'homme de Yunxuan. Coup de tonnerre dans le ciel des paléontologues, bon nombre de théories jusqu'alors en vogue sur l'origine de l'homme sont bouleversées. L'homme de Yunxuan fabriquait en effet des bifaces 200 000 ans avant ses congénères européens. Après pratiquement 15 ans de fouilles réalisées conjointement avec des équipes chinoises et françaises, Li Tianyuan, directeur de l'Institut archéologique et culturel de la province du Hubei en Chine, et Henri de Lumley, directeur de l'Institut de paléontologie humaine et membre de l'Institut de France, présentent l'ensemble de leurs recherches avec cette conférence qui fête par la même occasion la publication aux éditions du CNRS début 2008 du livre « Le site de l'homme de Yunxuan ». Avant d'entendre Amélie Vialet et Marie-Antoinette de Lumley, paléontologues ayant travaillé ensemble sur le site, débutons par quelques mots d'Henri de Lumley. Il nous retrace l'histoire des rapports qui lient les paléontologues chinois à l'Institut de paléontologie humaine en France.
En 1938, il y avait ici, dans cette maison, un jeune préhistorien qui avait été invité par l'abbé Breuil, par le père Pierre Théard de Chardin, pour travailler sur la préhistoire. Des chercheurs, en particulier Pierre Théard de Chardin, Davison Black avait découvert dans la grotte de Choucoutienne des outils en quartz, des pièces en quartz taillées. Mais les collègues chinois, les collègues de beaucoup du Nord se demandaient qu'est-ce que c'est que ces cailloux, comment on peut savoir qu'ils sont taillés. Et l'abbé Breuil, Pierre Tchercha, avait invité un jeune étudiant chinois à venir faire une thèse ici dans cette maison. Et vous voyez que depuis 70 ans, monsieur le ministre, il y a une coopération très étroite avec la Chine. Et je suis retourné en Chine, moi je suis allé en Chine pour la première fois en 1981, à l'invitation d'ailleurs du professeur Pei Wenchung. Et j'avais fait à cette époque-là, en 1981, avec mon épouse Antoinette et avec d'autres chercheurs français, une extraordinaire expédition à travers toute la Chine. Et on nous avait montré tous les sites célèbres de la Chine. Et ils nous avaient invités à collaborer avec eux. Et depuis, nous sommes allés souvent en Chine, nous avons fait des recherches en Chine, mais nous avons accueilli dans cette maison beaucoup de chercheurs. Et beaucoup de chercheurs sont venus préparer des thèses, en particulier le professeur Feng Xiaobo, qui est présent aujourd'hui ici, mais bien d'autres. On a reçu le professeur Lin Yangxian, qui nous a invités pour la première fois à venir justement sur le site que nous pouvons aujourd'hui, qui nous a quittés malheureusement actuellement, mais Li Tianyuan, Feng Xiaobo, Deng Wei, et beaucoup d'autres chercheurs, qui sont venus dans cette maison préparer des thèses, faire des travaux importants. Et la collaboration franco-chinoise est très vivante. Et la première fois que, avec mon épouse, quelques temps, nous avons fait une grande tournée en Chine, c'était la reprise d'une collaboration très étroite qui, j'espère, va se poursuivre dans les années qui viennent.
Après une courte présentation d'Henri de Lumley, laissons place tout de suite à Amélie Vialet, paléontologue. Son travail lors de ses fouilles en Chine ont consisté à reconstituer des crânes initialement très déformés dans le cadre de sa thèse de doctorat portant plus généralement sur l'évolution des squelettes faciales des premiers hominidés connus en Asie et en Europe.
Alors on a deux crânes, Yunxuan 1 que vous avez là sous les yeux, et Yunxuan 2, que vous pouvez voir ici. Vous constatez tout de suite qu'ils sont extrêmement complets. Il y a le massif facial, les dents sont préservées, et puis l'ensemble du crâne. En revanche, ils sont extrêmement déformés, ils sont très altérés. Le premier spécimen est peut-être le plus impressionnant, et c'est celui d'ailleurs sur lequel on ne s'est pas réellement concentré pour essayer de compenser la déformation. J'ai plutôt centralisé mon travail sur le spécimen numéro 2 qui était un petit peu moins altéré. Donc ces spécimens ont subi donc une déformation de différents types. Il y a de la déformation plastique, donc que vous pouvez voir ici, un aplatissement général ici du crâne. Il y a de la déformation cassante, donc des ruptures, des cassures dans l'os. Il y a tout un phénomène aussi de craquelure à la fois de la surface osseuse, mais également de l'émail des dents. Et donc, il y a aussi des lacunes osseuses. Hein. Ce spécimen est assez complet. Je vous ferai remarquer que son os zygomatique sur le spécimen de Jungsian 1, qui est bien préservé, je vous le fais remarquer au passage, parce qu'il nous a servi dans la reconstitution pour compléter le spécimen numéro 2, qui, lui, a perdu dans son histoire post-dépositionnelle, dans son histoire taphonomique, a perdu son os zygomatique. Alors voilà, on a surtout cherché dans un premier temps à essayer de comprendre comment s'étaient fossilisés ces spécimens et surtout donc comment ils s'étaient déformés de manière à pouvoir compenser cette déformation. Donc nous avons utilisé une série de méthodes assez innovantes à l'époque, mais elles sont maintenant assez largement répandues dans les applications paléoanthropologiques. Donc déjà l'acquisition scanner, l'acquisition tomographique, on a passé ces deux crânes fossiles dans un scanner médical de l'université de Wuhan en Chine. Donc le scanner, l'imagerie 3D, l'imagerie médicale, et puis ensuite le bout de la chaîne, donc justement pour donner une forme physique au projet qui est mené virtuellement avec l'imagerie 3D sur ordinateur, on utilise les systèmes de prototypage rapide qui sont très développés dans l'industrie, qui sont des techniques extrêmement précises. Donc voilà l'ensemble des méthodes qu'on a mis en œuvre pour tirer le meilleur parti de ces fossiles, essayer de compenser la déformation et donc à terme, l'objectif premier évidemment, étant de pouvoir mieux les étudier, de pouvoir aller plus loin dans l'analyse qu'on avait déjà réalisée de ces spécimens. Donc voilà, spécimen Jungsian 2, vous observez un aplatissement aussi de l'arrière-crâne, des phénomènes de rupture là, au niveau de l'écaille frontale, vous verrez peut-être mieux sur d'autres images au niveau aussi du maxillaire, et puis des lacunes osseuses. Que nous ont appris l'acquisition tomographique, les images scanners que nous avons obtenues, bien une série de choses, une série de caractères inédits, hein, puisque c'est une technique qui vous permet de visualiser ce qui est le plus inaccessible, donc qui vous donne vraiment accès à une série d'informations inédites. Là, par exemple, on voit que l'intérieur du crâne, vous avez la face ici, l'arrière-crâne ici, et donc c'est une coupe sagittale. On voit que l'intérieur du crâne est rempli d'un sédiment très fin, très homogène, et que toutes les anfractuosités du crâne sont complètement remplies. Donc, ce qui laisse à penser que très tôt, au cours de l'histoire de sa fossilisation, la boîte crânienne, qui était donc totalement vide, puisque les parties molles s'étaient décomposées, eh bien, c'est rempli entièrement en un moment certainement unique, je veux dire en un seul moment, ce sédiment donc fluviatile a pénétré l'intérieur du crâne. Et heureusement, parce que finalement, c'est cette matrice qui a fossilisé et qui a fossilisé avec le reste du squelette et qui a donc permis la préservation de ce fossile. Donc voilà une information livrée par la tomographie. Également, on a pu observer... Vous voyez l'écaille frontale ici que je vous ai remarqué sur l'original, elle est surélevée par rapport au reste du crâne. Finalement, il y a eu un phénomène ici de fracture osseuse, c'est-à-dire que donc il y a une déformation plastique qui a plati le crâne et à un moment le seuil de plasticité il est atteint et donc c'est la face qui se détache, qui se désolidarise du reste du crâne et à ce moment-là l'ensemble du crâne et de la face reste tout de même solidaire parce qu'ils sont dans un espace colmaté, hein, le sédiment les maintient ensemble, simplement la déformation plastique elle se poursuit sur cette partie du crâne et cette partie du crâne vient glisser sous l'espace qui a été libéré par le phénomène d'écaille frontale qui s'est donc décroché et qui avait laissé un espace vide à ce moment-là. Donc on a pu comme ça, par une série d'indices, reconstituer la chronologie des événements de la déformation du fossile. Elle est schématisée ici, cette histoire de la fossilisation dont je vous ai parlé. Hein, ces crânes donc sont certainement à l'air libre, quelque peu charriés par le cours d'eau. À cette occasion, elles perdent certains éléments osseux comme les os zygomatiques pour le spécimen de Jungsian 2. Et puis ensuite, donc, ils sont ensevelis. Le sédiment pénètre totalement à l'intérieur des crânes et vient donc se stratifier une série très très épaisse de limon et de sable que vous a décrite le professeur de Lemley. Et de ce fait, ça s'accumule sur une dizaine de mètres d'épaisseur, ce qui explique qu'après, le poids de ces sédiments a agi et a déformé ces crânes qui avaient atteint, comme on vous l'a dit, une certaine plasticité. Voilà donc cette histoire taphonomique ou post-dépositionnelle qui est ici illustrée. Et pour terminer, donc, mon travail a consisté essentiellement à argumenter comment on allait reconstituer donc ces crânes. J'ai travaillé dans deux plans, le plan sagittal que vous avez vu, le plan transversal qui passe donc au niveau des pariétaux du crâne. Et j'ai essayé de justifier chacune des manipulations qu'on a fait subir ensuite virtuellement à ce crâne déformé en proposant un contour sagittal crânien, en proposant un contour transversal du crâne qui soit donc reconstitué où la déformation est compensée. Et donc ce projet est mené entièrement virtuellement, comme je vous le disais, et on l'a produit sous la forme d'un prototype que vous avez ici et que vous avez là sur le bureau. Et cette photo, en fait, vise un peu à résumer l'ensemble des manipulations. Le spécimen Jungsian 1 tel qu'il a été découvert, donc complètement déformé avec son os zygomatique, qu'on a donc prélevé virtuellement pour le repositionner sur la reconstitution ici du spécimen numéro 2. On s'est permis cette manipulation parce que l'os zygomatique étant essentiellement à l'extérieur de l'ensemble du volume du crâne, il n'avait pas subi ou que peu la déformation, la pression et la déformation plastique qui a affecté l'ensemble du crâne de Jungsian 1. Donc voilà, et puis Jungsian 2 ici, tel qu'il a été découvert aussi, donc avec toutes ses lacunes osseuses, ses décrochements au niveau du squelette facial, son aplatissement au niveau de l'arrière-crâne, tout a été compensé ici. D'abord, on a compensé les altérations assez simples, comme en effet les décrochements osseux, hein, pour le maxillaire gauche. On est venu le repositionner ici à son emplacement d'origine en prenant exemple sur le maxillaire droit qui n'était pas affecté, alors qu'ici vous notez une cassure et donc une surélévation de cette partie du maxillaire par rapport à l'autre. Donc ça sont des déformations relativement simples qu'on a pu compenser facilement. Et ensuite, on a travaillé sur la déformation plastique de l'ensemble du volume de la boîte crânienne. Je voulais juste préciser, mais Madame Delemelay le fera plus en détail que moi, que cette réalisation, cette reconstitution permet donc d'aller plus loin dans l'étude du spécimen. Par exemple, on a pu préciser le volume endocrânien de ce spécimen. On l'a réduit de 150 cm3 par rapport à l'estimation qu'on avait faite sur des mesures externes du crâne et qui donc, vous voyez, surestimait totalement sa capacité crânienne, qui est un élément important pour discuter de l'évolution de ces hominidés fossiles. Et puis au niveau de la face, qui, je vous le disais, m'a intéressée principalement dans mon travail de thèse, eh bien, j'avais à ma disposition de fait une face plus complète. Et il se trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est d'étudier ce complexe zygomatico-maxillaire parce que c'est lui qui évolue au cours du temps avec une concavité qui est installée au milieu de la face à différents moments de l'évolution et qui est donc un indicateur important de ces jalons de l'évolution humaine.
Dans la continuité des propos d'Amélie Viallet, la paléoanthropologue Marie-Antoinette Delemelay revient en détail sur l'intérêt de la découverte de ces deux crânes pour la communauté scientifique. On l'écoute.
Nous avons étudié sur place, en Chine, les fossiles et sur le prototype en frittage de poudre, nous avons pu compléter les analyses avec les crânes reconstitués. La découverte de ces deux crânes est venue doubler la collection d'hominidés connue en Asie, c'est-à-dire de crânes complets avec face. On connaissait jusque-là un crâne en Chine, l'Antian, et le crâne de Sangiran, Sangiran 17, avec sa face. Deux crânes pour toute l'Asie continentale et sud-est asiatique. Et la découverte de ces deux crânes par nos collègues chinois est venue doubler, 50% de plus, la collection de ces hominidés. Donc vous voyez que c'était très important d'avoir ces deux crânes complets. De plus, ces deux crânes ont été découverts assez proches l'un de l'autre dans la même couche, à 3 mètres de distance. Il s'agit vraisemblablement de la même population, peut-être de la même famille. L'un est plus gracile que l'autre, il doit s'agir d'un individu féminin. L'autre, plus robuste, doit être un individu masculin. De plus, ce sont deux adultes. Les sutures crâniennes ne sont pas totalement soudées. Nous savons que ce sont des adultes, mais dont nous ne pouvons pas préciser l'âge. Il est compris entre 25 ans et 40 ans au moment où les os du crâne se soudent. Donc deux adultes, mâles et femelles, et qui sont relativement jeunes. Donc à partir de ces deux crânes, ce que nous allons observer va nous donner des informations sur le stade d'évolution puisque nous avons en même temps des informations stratigraphiques, des datations et nous savons à quelle période ils vivaient. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les découvertes paléontologiques. Souvent, c'est un peu plus lâche comme information. Donc, c'était capital. Là, vous avez une face du premier crâne, c'est-à-dire l'individu plus gracile, la femme. Alors, malheureusement, elle est assez écrasée. Ça, c'est le sommet du crâne. Là, vous avez les dents et vous avez une orbite. Donc, c'est un crâne qui est très écrasé, aplati. Et si on utilise le terme provençal pour écraser, qui est esquiché, Henri dit que c'est un esquichopithèque. À partir de ce fossile écrasé, il était difficile d'avoir des informations, si ce n'est que l'on peut voir déjà, je peux vous montrer déjà que les parties saillantes latérales, les pommettes, les zygomatiques, sont très saillantes, bien qu'il s'agisse d'un individu femelle. Donc nous pouvons retenir qu'il avait les pommettes saillantes et nous allons voir qu'il s'agit vraisemblablement d'un caractère géographique. En vue de profil, c'est le même crâne, vous voyez que la partie là est très écrasée, mais la face est complète, les dents sont là. Donc bien qu'il soit écrasé, il est absolument complet. Et la partie inférieure du crâne est toute conservée, écrasée, mais absolument bien conservée. Nous pouvons voir qu'il a une face qui est déjà haute, elle n'est pas trop tassée, elle est haute, malgré son léger tassement, elle est haute. Et elle est relativement large, mais avec un nez étroit. Voici le deuxième, qui est l'individu mâle, plus robuste, avec sa face très haute, comme la femme, avec des orbites qui sont basses, et dont la profondeur, la cavité est très grande, elle est trois fois plus importante qu'une cavité actuelle. Un espace entre les deux yeux qui est large, mais ça nous le connaissons chez les Homo erectus en général. Nous avons une voûte qui est relativement basse, puisque nous sommes au niveau du frontal. Sur une vue latérale, nous voyons bien cette partie faciale, la voûte qui est relativement aplatie, la partie postérieure, et ici, une apophyse mastoïde, que vous sentez en arrière de vos oreilles, qui est curieusement très développée, sur un fossile que l'on attribue par d'autres caractères, des voûtes basses, d'allongements importants que l'on attribue au groupe des Homo erectus. Or, sur un Homo erectus classique, nous avons bien cet aspect frontal aplati, la voûte aplatie, allongée, le relief au-dessus des orbites, un torus susorbitaire, les crêtes temporales avec un relief postérieur que l'on appelle un torus angularis au niveau du pariétal qui est considéré comme un caractère propre aux Homo erectus. Et nous avons d'autres traits que d'habitude nous ne voyons pas chez les Homo erectus, en particulier l'aspect rectiligne, assez rectiligne de la face, alors que chez les Homo erectus qu'on a l'habitude de voir sur les deux autres en particulier, la face était projetée en avant. Ici, la face n'est pas très peu projetée en avant, uniquement projetée dans la partie inférieure. Et la zone mastoïdienne, qui d'habitude est très courte chez les fossiles du groupe Homo erectus, qui est ici déjà développée, dégagée de la boîte crânienne. Et ce qui va être important pour l'insertion des muscles du cou, qui ont un rôle dans la rotation de la tête. Chez les formes d'Homo erectus que l'on a l'habitude de voir d'habitude, parce qu'on a des calottes souvent bien conservées chez les synanthropes, chez les pithécanthropes, sans face, mais on a quand même cette portion-là du temporal. On avait constaté qu'il y avait des reliefs très marqués au-dessus de l'apophyse mastoïde. L'apophyse mastoïde était petite et au-dessus, on avait des reliefs très marqués pour accrocher les muscles qui faisaient tourner et fonctionner les mouvements de la tête. Or ici, nous n'avons pas ces reliefs très marqués, les crêtes supramastoïdiennes, crêtes mastoïdiennes, mais nous avons une apophyse mastoïde très développée, et c'est sur elle que devaient s'accrocher les muscles qui faisaient la rotation de la tête. Or, cette disposition de dégagement de l'apophyse mastoïde est un caractère que l'on attribue, que l'on attribuait en général à des formes modernes. Alors voilà, tout cela est compliqué parce qu'on a des caractères qui sont d'Homo erectus, bien classiques si vous voulez, les dimensions rentrent dans les variations des Homo erectus. Et quand on regarde certains traits, on s'aperçoit que nous avons déjà des traits que l'on connaît chez les formes modernes, postérieures, mais qui en fait, ici, existaient depuis 900 000 ans, depuis 930 000 ans. Voici le prototype en fruitage de poudre qui permet de mieux visualiser les traits et de, par exemple, de voir que la face est haute avec un nez assez haut et étroit. Voici le prototype qui permet de bien voir le dégagement de l'apophyse mastoïde, la voûte qui est basse et la face qui est à peu près rectiligne, qui habituellement était utilisée par les paléoanthropologues comme caractéristique du forme moderne. On peut faire aussi la capacité crânienne. Alors voici Jungsian qui se trouve situé bien au-dessus, si vous voulez, des formes archaïques africaines et des petites formes de Java, mais qui se trouve à la limite supérieure des javanais, des synanthropes, et même, vous voyez, des formes européennes comme l'arago. Jungsian, c'est 1130 cm cubes. Totavel, c'est 1200, enfin, si vous voulez. Nous sommes dans les valeurs supérieures du groupe des Homo erectus. Là, vous avez les néandertaliens, les hommes modernes seraient là-haut. Et ici, vous avez les formes archaïques très anciennes des Homo erectus plus anciens. Et vous avez l'homme de Dman ici, le premier européen, et les Homo habilis. La suivante. Alors, on peut bien sûr, on peut détailler, mais on ne va pas insister là-dessus, sur les largeurs de la face, la hauteur du nez, et on s'aperçoit que Jungsian a un nez assez haut par rapport, par exemple, à l'arago, qui a un nez beaucoup plus bas. C'est en girant 17, le javanais, il a un nez qui est moins haut. Voilà, on peut s'amuser à faire quelques petits graphiques comme ça, la suivante, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Jungsian se trouve dans le groupe des Homo erectus. Au-dessus, vous avez Petralona, qui est plus proche des Néandertaliens, si vous voulez. Alors, par rapport aux Européens datés de 800 000 ans, si vous voulez, les plus vieux Européens que l'on connaisse, en Italie, Ceprano, nous ne sommes pas très loin, par la largeur du crâne et par sa hauteur totale. Donc, c'est un crâne qui est proche de Ceprano. L'Arago serait un peu plus haut. Mais vous avez, par rapport aux Africains, sans girant 17, je vous disais, le Javanais qui a sa face et l'Africain OH9, trouvé à Old Duvai par la famille Liquet, nous avons Jungsian qui a déjà un crâne, une expansion verticale qui est plus importante, ce qui traduit un stade évolutif plus important que le Javanais, que l'Africain. Donc, on peut résumer ainsi, nous avons une bonne information grâce à ces deux fossiles de sexe différents, mais qui nous apporte une information capitale en paléoanthropologie, c'est que certains traits que les paléoanthropologues attribuaient à une évolution, à une forme plus moderne d'Homo sapiens, en fait, existent depuis très longtemps et depuis au moins 900 000 ans.
Vous venez d'entendre Marie-Antoinette de Lumley, paléoanthropologue, sur l'intérêt scientifique de la découverte du site de l'homme de Jungsian en Chine. Cette découverte, en 1995, a révolutionné la communauté puisque l'industrie lithique découverte autour des squelettes prouvait que ces Homo erectus étaient plus évolués que leurs voisins européens. Pour en savoir plus, lisez le site de l'homme de Jungsian, publié en février 2008 aux éditions du CNRS, ouvrage répertoriant l'ensemble des fouilles menées conjointement entre la France et la Chine. Et puis, restez à l'écoute de Canal Academy et téléchargez nos émissions en lien avec la paléontologie. Vous trouverez ce terme dans l'onglet « Thème » de Canal Academy. Vous accéderez ainsi aux autres conférences publiques de l'Institut de paléontologie humaine, ainsi qu'aux autres émissions en lien direct ou indirect avec des académiciens paléontologues. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.